Bonjour.
Donc pour ce matin, j'ai choisi un passage dans l'évangile de Jean. Alors c'est vrai qu'on, il y a peu de temps, on a fait une série dans l'évangile de Jean, mais on va y retourner. Et je vous invite à ouvrir les Bibles blanches à la page 700. À la page 700. J'espère que le PowerPoint fonctionnera. Alors nous allons lire simplement trois versets. Donc Jean 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors donc ce matin, on m'a donné carte blanche pour choisir mon texte, et mon choix s'est naïvement arrêté sur ces trois versets. Alors, avant de revenir sur le naïf, je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix de texte. Bah d'abord pour nous encourager. Jésus prononce ces mots en guise d'adieu. Il est sur le point d'être arrêté et mis à mort. Et avant cette séparation, il veut encourager ses disciples. Et donc il leur adresse ces formidables promesses. Un encouragement, mais aussi un défi. Jésus donne ici une feuille de route et il rappelle... En même temps qu'il les encourage, il rappelle à ses disciples quelle est leur vocation. Alors ben, j'espère que ces versets vont nous aussi nous encourager et nous dynamiser. Toutefois, c'est vrai que mon choix a été un peu naïf. J'ai tout de suite vu l'encouragement, et puis après, au fil de la préparation, j'ai mesuré toute la complexité de ces versets. Alors c'est donc vraiment avec humilité que je vous livre mes réflexions. Et puis, ben, on va devoir travailler. C'est dimanche matin, mais on va devoir travailler ensemble ce matin. Donc, il va falloir qu'on fouille ces versets, disons-le, en partie énigmatiques, et qu'on les fouille ensemble. Mais bon, alors, avant de nous fatiguer, posons-nous quand même la question, est-ce que ces encouragements nous concernent ? Est-ce que nous sommes visés par ces promesses de Jésus ? Alors Jésus s'adresse ici à ses 11 disciples, hein, puisque Judas est parti pour commettre sa trahison. Et donc il s'adresse à ses 11 disciples qui vont bientôt devenir les apôtres. Alors il est évident que ces encouragements leur sont prioritairement adressés. Pour autant, verset 12, Jésus adresse ses promesses, je cite, « à celui qui croit en lui ». Et donc je pense qu'au travers des 11 disciples, Jésus vise aussi leurs successeurs, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus et dans ses paroles, c'est-à-dire à nous l'Église. Et donc, ce faisant, Jésus nous rappelle notre vocation. Alors, une double vocation, donc nous sommes appelés, d'abord verset 12, à avoir un ministère fructueux, et ensuite, versets 13 et 14, avoir une vie de prière fructueuse. Donc voilà pour les deux parties de notre message. Et je vous propose donc de commencer par « Le chrétien est appelé à avoir un ministère fructueux », verset 12. Alors, relisons ce verset 12. « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » Donc Jésus nous dit deux choses. D'abord, ses disciples feront les œuvres que lui-même a faites. Et ensuite, il ajoute que ses disciples feront aussi des œuvres encore plus grandes. Alors, quel verset, quelle promesse, quel encouragement. Mais pour être véritablement, durablement encouragé, encore nous faut-il tenter de comprendre ces versets. Sinon, on s'expose à la désillusion. Quoi de plus cruel qu'une promesse déçue? Alors, je vous propose trois temps. Examinons les œuvres que Jésus a faites et que nous ferons. Puis, voyons quelles peuvent être ces œuvres encore plus grandes. Et enfin, on terminera par des applications. Alors d'abord, le disciple fera les œuvres que Jésus fait. De quoi est-il question? Alors attention, on va un peu travailler. Dans l'évangile de Jean, l'œuvre de Jésus, le terme œuvre, désigne principalement deux choses. D'abord, l'œuvre, c'est la constitution d'une communauté d'hommes pardonnés. L'œuvre, c'est le ministère de Jésus. Ses actes d'humilité, ses actes d'amour, ses enseignements. Par tout cela, Jésus rassemble autour de lui les hommes qui ont foi en lui et en ses paroles. L'œuvre. Mais aussi, deuxième sens, souvent, le terme œuvre désigne plus spécifiquement les miracles de Jésus. Par exemple, quand il guérit l'infirme à la piscine de Bethsaida, eh bien, on parle d'une œuvre. Ça, c'est Jean 7, verset 21. Deux choses, donc. L'œuvre et les œuvres, les miracles. Et alors, il se trouve que les deux sens sont liés. Pourquoi? Parce que quand Jésus accomplit des miracles, des œuvres, c'est pour illustrer une vérité concernant son identité ou sa mission. Et donc chaque miracle, chaque œuvre, pointe vers une réalité spirituelle qui dépasse le simple miracle. Le but, c'est de susciter la foi en Jésus et donc de constituer ce rassemblement de ceux qui croient en lui, de constituer l'œuvre. Les œuvres, les miracles, servent à créer cette communauté, cette œuvre. Alors ici, Jésus déclare que ses disciples prolongeront cette action. Donc, ils poursuivront l'édification de cette communauté de croyants. Et éventuellement, en accomplissant des miracles qui servent de signe. Alors, problème. Je suis disciple de Jésus. Je participe à l'édification de l'Église. Je témoigne de Jésus, de ses paroles. Je m'efforce de l'imiter dans ma vie. Mais par contre, je n'ai fait aucun miracle, à ma connaissance. Et je pense que c'est l'expérience de la plupart d'entre nous. Alors, il faut reconnaître que dans les milieux chrétiens, l'appréciation des miracles est très contrastée. D'un côté, certains sont très mal à l'aise avec cette notion et tentent plutôt de l'évacuer. Et puis de l'autre, on a ceux qui courent après, quitte à voir des miracles un peu partout. Alors ce verset affirme que l'Église accomplira aussi des miracles. Et le livre des Actes est là pour en témoigner. Donc nier cette réalité serait une erreur. Pour autant, les miracles ne constituent pas une fin en soi. On l'a dit dans l'Évangile, les miracles sont des signes. Ils pointent vers Jésus. En fait, ils accompagnent la proclamation de l'Évangile. Et donc, je pense que les miracles se produisent surtout à des moments stratégiques. Le ministère de Jésus, les débuts de l'Église. Mais aujourd'hui encore, nous croyons que les miracles existent. Alors, je pense qu'ils se produisent davantage en terrain missionnaire ou dans des temps de réveil. Dieu donne encore des signes de la vérité de sa parole. Mais la proclamation de l'Évangile reste centrale. Si des miracles l'accompagnent, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, tant pis, ça n'a rien d'anormal. Alors venons-en à la suite. Jésus ajoute que les disciples feront des œuvres encore plus grandes, voilà, que les siennes. Alors là, c'est une affirmation étonnante. Alors certains font une lecture directe, frontale, de ce verset. Pour eux, les disciples accompliront des œuvres plus grandes, c'est-à-dire plus spectaculaires. Pour eux, les œuvres, ce sont que des miracles. Et donc, ben, des œuvres plus grandes, c'est forcément des miracles plus grands. Problème, comment faire plus spectaculaire que la résurrection de Lazare, que la multiplication des pains? De plus, cette recherche du spectaculaire est douteuse. Et je pense que cette surenchère pose problème. Alors c'est vrai, les miracles sont une réalité, mais c'est une réalité qui doit être maniée avec précaution, parce qu'elle peut conduire à des dérives, notamment lorsqu'une course au spectaculaire s'instaure. Parce que dans ce cas-là, le miracle commence à prendre la place centrale. Or, la foi ne doit jamais reposer sur les miracles. Nous l'avons dit, Jésus nous appelle à avoir foi en lui et en ses paroles. Mais alors, comment comprendre ces œuvres plus grandes ? On va continuer à travailler, à verser prédication ardue. Alors, nous avons deux indices qui, je pense, nous éclairent. D'abord, cette expression des œuvres plus grandes a déjà été utilisée dans l'évangile de Jean auparavant, donc au chapitre 5. Au chapitre 5, au verset 20, nous lisons. Alors le contexte, c'est Jésus vient de guérir le paralytique. Donc il vient de faire un miracle et il déclare « En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. » C'est-à-dire plus grandes que ce miracle, cette guérison. Et juste après, au verset 21, il nous en dit plus sur ce que seront ces œuvres plus grandes. Le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Et au verset 25, c'est encore plus clair, les œuvres plus grandes sont explicitées. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Jésus explique que le plus grand des miracles, c'est la vie éternelle. Et ce sont ses paroles qui communiquent cette vie éternelle. Premier indice. Alors, deuxième indice. Alors, le second indice, en fait, se trouve à la fin de notre verset 12. Puisque le verset 12 nous dit « Le disciple fera des œuvres plus grandes », mais il ajoute « Parce que Jésus va vers son Père ». Le retour de Jésus auprès du Père débute un nouvel ordre. Le sacrifice, puis l'élévation de Jésus, ont inauguré une ère nouvelle. Une ère où l'Église se voit confier un rôle formidable, celui de la proclamation. C'est désormais aux disciples, c'est désormais à nous de partager les paroles de Jésus. En cela, nous faisons comme Jésus. Mais le contexte dans lequel nous le faisons rend cette œuvre encore plus grande. Parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Les promesses de l'Ancien Testament se sont accomplies en Jésus. Jésus a parfaitement révélé le Père et il a vaincu le mal à la croix. Ce qui veut dire que jamais auparavant, les choses ont été aussi claires. Mais aussi jamais auparavant, les choses ont été si puissantes. Parce que l'Esprit a été envoyé, l'Esprit nous a été donné et l'Esprit demeure en nous. Les œuvres plus grandes relèvent donc du domaine spirituel et non physique. Les œuvres plus grandes sont la prédication de l'Évangile, cet Évangile qui transforme les vies grâce au Saint-Esprit. Or, les apôtres ont débuté cette tâche, mais elle demeure la responsabilité de l'Église. Alors, quelles applications pour nous? Et bien déjà, sommes-nous conscients de l'époque dans laquelle nous vivons? Alors, on se plaint souvent de notre époque. Et notamment dans les milieux évangéliques, on entend souvent dire que nous sommes dans les temps de la fin. Sous-entendu, nous vivons une période terrible. Bah pour Jésus, notre période est un encouragement. Nous vivons une époque spirituellement formidable. Une époque de clarté. La révélation est complète, achevée. Une époque de puissance. L'Esprit se sert de notre proclamation pour sauver des hommes. L'Évangile se répand sur toute la surface de la terre. Toutes les ethnies sont touchées, hommes et femmes, pauvres et riches. Alors prenons conscience de notre privilège. Dans l'histoire du salut, nous vivons une époque glorieuse. Seconde application, avons-nous un ministère fructueux? Nous l'avons vu, nous sommes appelés à faire les œuvres de Jésus et même de plus grandes. Proclamer et vivre ce message de vie qu'est l'Évangile. Servir d'instrument pour l'action de l'Esprit. Alors la question, c'est est-ce que nous partageons l'Évangile avec les autres? Nous avons compris que les GBU le font. Mais nous, est-ce que nous vivons l'Évangile? L'amour, l'humilité du Christ se reflètent-ils en nous? Est-ce que nous disons l'Évangile? Ces versets s'adressent à tous ceux qui croient. Donc la proclamation n'est pas réservée à des super évangélistes. Elle est confiée à toute l'Église, à nous tous. Alors se voir confier une telle responsabilité, c'est très enthousiasmant. Mais devoir l'assumer peut nous faire peur, peut même nous écraser. Où trouver la force de proclamer, de porter du fruit? Alors c'est notre seconde partie, elle sera plus courte. Le chrétien est appelé à avoir une vie de prière fructueuse, versets 13-14. La fécondité de notre vie de disciple est le fruit de nos prières. Alors, relisons les versets 13 et 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, dans notre partie précédente, on différenciait d'un côté les œuvres de Jésus et de l'autre les œuvres des disciples. Nos œuvres. Alors le risque, c'est de se dire, c'est vrai que Jésus a bien travaillé, mais bon, maintenant, il est à la droite du Père, c'est donc à nous de tout faire. Ce serait commettre une grave erreur. On le voit bien dans ces versets 13-14, nous demandons, mais c'est Jésus qui continue de faire. Par deux fois, il répète ici, je le ferai. Ce qui veut dire que le véritable contraste se situe plutôt entre d'un côté les œuvres que Jésus a faites durant son ministère terrestre et les œuvres que Jésus lui-même continue de faire par ses disciples, notamment en réponse à leurs prières. Voilà qui devrait nous rassurer. Jésus nous presse de lui demander d'agir. Il nous presse d'avoir une vie de prière fructueuse. Alors détaillons rapidement cela en trois temps. Que devons-nous demander? Comment devons-nous demander? Et voyons quelques applications. Alors d'abord, que devons-nous demander dans nos prières? Voilà. Jésus nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Alors forcément, une telle promesse aiguise les appétits. Elle semble laisser champ libre à tous nos désirs. On a tout de suite en vue le superbe appartement à Neuilly, la charmante personne dont on est secrètement amoureux, la promotion tant convoitée au boulot, la guérison d'une maladie, etc. Alors tout cela n'est pas mauvais en soi, et la Bible nous encourage à présenter tous nos besoins à Dieu. Mais la prière n'est pas là pour assouvir nos passions terrestres. La prière n'est pas un distributeur automatique de bienfaits physiques. Ce serait instrumentaliser le Seigneur. Alors, que demander dans nos prières ? Alors, pour le savoir, tournons-nous vers la parole. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, cette expression revient plusieurs fois dans les évangiles. Donc, on va juste l'espace d'une minute trente prendre le temps de voir dans quel contexte. Alors, déjà, on la trouve dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Et dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle l'épisode du figuier. Vous savez, cet arbre qui, malheureusement, ne donne pas de fruits. Donc c'est Matthieu 21-22 et Marc 11-24. Dans les deux cas, le contexte est celui de la foi. Une foi qui doit porter du fruit. Chez Jean, on trouve l'expression dans les versets qu'on vient de lire. Et puis, on la retrouve juste après, à trois reprises. Au chapitre 15, versets 7 et 8, là encore, il s'agit de porter du fruit, notamment l'amour. Puis au verset 16 du chapitre 15, toujours porter du fruit et encore l'amour. Et alors cette fois-ci, il y a aussi l'idée de la mission. Il faut porter du fruit en nous, mais aussi autour de nous. Et enfin, au chapitre 16, là c'est un peu spécial parce que Jésus insiste sur le fait qu'il va partir. Et donc désormais, ça change la donne, et désormais c'est les disciples qui vont devoir demander au Père directement au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il ressort de tout cela ? Que demander ? Eh bien, nos versets 13 et 14 sont liés au verset 12. Demandons à Dieu de nous permettre de porter du fruit, d'avoir un ministère fructueux, de proclamer l'Évangile. Alors, le proclamer en parole, mais aussi en actes, en vivant des vies de foi, d'amour. Voilà ce que nous devons demander. Comment nourrir ne serait-ce que l'espoir d'y arriver sans la prière ? Dieu seul peut nous accorder cette grâce, Dieu seul peut nous rendre capables de faire les œuvres de Jésus et de plus grandes encore. Encore nous faut-il le lui demander. Mais maintenant, comment demander ? Alors les versets 13 et 14 précisent « Demandez en mon nom », nous dit Jésus. Cela nous rappelle que le seul chemin vers Dieu est en Jésus. En lui, nous avons été justifiés, réconciliés, et c'est cela qui rend possible notre accès auprès du Père. Mais prier en son nom, c'est aussi prier à la place de Jésus, ou comme prier de sa part. Ça veut dire prier en collant à la volonté de Jésus, en accord avec ce qu'il est, ce qu'il veut. Si nous prions de cette manière, Jésus fera ce que nous lui demandons, nous montrant ainsi à quel point il reste actif et manifestant aussi sa puissance et celle de son Père. Alors terminons par quelques applications. Quelle place donnons-nous à la prière dans notre vie personnelle? Alors pour le savoir, c'est assez facile, mais il suffit de calculer le temps que nous y consacrons. Force est de reconnaître que la prière est souvent le parent pauvre de la vie chrétienne, en tout cas de ma vie chrétienne. On prie une fois qu'on n'a rien d'autre à faire, ou on prie en dernier recours lorsqu'on est acculé. De même, quelle place accordons-nous à la prière dans notre église? Alors chaque début de mois, dans cette église, nous prions. On consacre le premier jeudi soir à cela. Et on aimerait que ça soit la réunion phare du mois. Mais bon, c'est souvent la soirée où les rangs sont les plus clairsemés. Alors je profite aussi de cette occasion pour vous rappeler qu'il existe un calendrier de prière dans cette église qui nous propose des sujets de prière pour chaque jour du mois, des sujets liés à cette église. Prenons conscience que par nos prières, Jésus continue à agir dans nos vies, dans celles des autres, dans notre ville, dans notre pays. Jésus est à l'œuvre par l'intermédiaire de son peuple, par l'intermédiaire de nos prières. Alors, dernière application, que demandons-nous dans nos prières ? Est-ce qu'on demande l'avancement du règne de Dieu, à la fois en nous et autour de nous? Est-ce qu'on demande que Dieu rende nos vies fructueuses pour son service? Ou bien nos prières sont-elles toujours centrées sur nous-mêmes, sur nos besoins? Alors l'apôtre Jacques est assez direct, hein, il déclare « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Notre vie de prière doit chercher à glorifier Dieu. Et c'est à cette condition qu'elle deviendra un puissant encouragement pour nous. Alors il est temps de conclure. Ces trois versets sont difficiles, mais ils sont prodigieux. Jésus nous demande rien de moins que de continuer son œuvre et même de l'amplifier. Il a décidé de se servir de nous associer à lui, de nous confier une formidable responsabilité pour suivre la proclamation de ses paroles. Mais pour ce faire, il nous appelle à lui faire confiance, à nous appuyer sur lui et à lui remettre par la prière la réalisation de cette mission. Parce que c'est Jésus lui-même qui continue à agir au travers de l'Église. Et c'est aussi ça, la grâce. Souvent, on résume la grâce à un événement du passé, le moment où Dieu nous a pardonné indépendamment de nos œuvres. Alors c'est vrai que la grâce a été le point de départ de notre vie chrétienne. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle l'accompagne aussi. La grâce soutient notre vie chrétienne. Elle nous suit tout au long de cette vie et c'est par la grâce que nous pouvons vivre notre vie chrétienne. Jésus nous confie une vocation extraordinaire, mais dans sa grâce, c'est lui qui nous rendra capables de l'assumer. Alors à nous de lui demander de faire cela, et puis à nous d'accepter de dépendre de lui. Que dans sa grâce, Dieu nous donne d'accomplir beaucoup d'œuvres pour sa gloire. Et je terminerai en vous donnant cette citation de William Carey, un missionnaire baptiste. Il disait « Attendez de grandes choses de Dieu et entreprenez de grandes choses pour lui. » Prions. Dieu Tout-Puissant, merci pour l'œuvre de ton Fils. Merci de nous associer à la poursuite de cette œuvre. Merci de nous avoir donné l'Esprit. Nous sommes si faibles, Seigneur, nous te demandons de nous aider. Donne-nous d'accomplir notre vocation de disciple. Donne-nous de ressembler à ton Fils, de proclamer fidèlement ses paroles. Et aide-nous à vivre nous-mêmes de sa parole. Que ton Esprit nous soutienne, nous transforme, nous mette à part pour ton service. Que ton Esprit se serve de nos vies pour te glorifier. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.